Très bonne fin de semaine, messieurs, dames, bonjour, bienvenue à la rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur votre radio. Les titres, l'actuel code minier de la RDC est le document de référence qui régit le secteur en RDC. Il convient de noter à ce jour qu'au regard du contexte général du secteur minier, le gouvernement a opté de maintenir l'application du code minier et de ses mesures d'application actuellement en vigueur pour régir le secteur minier de la République démocratique du Congo. C'est la déclaration faite cette semaine par le ministre des Mines. C'était au forum minier Indaba en Afrique du Sud. L'entreprise minière Luna Mining du groupe Trafigura, qui exploite du cuivre dans la carrière de Lupoto, a mis en congé technique une cinquantaine de ses agents. Elle a versé à ces derniers un forfait de décompte final. Mécontents, ses ex-agents parlent de licenciement abusif et ont saisi l'inspecteur de travail. L'agence de notation Standard & Poor's abaisse les perspectives de la note de l'économie congolaise. La note B- stable désormais devient B- avec des perspectives négatives. Standard & Poor's a pris cette décision depuis le 5 février 2016. Voilà pour les titres. Les titres et l'invité de la semaine s'appelle Trésor Mukambiloa et c'est avec lui que nous allons analyser l'actualité de la semaine.
Panorama économique, le dossier.
La synthèse de l'actualité de la semaine, dans cette rétrospective de l'actualité économique de la semaine, nous allons parler essentiellement mines et nous commençons par cette déclaration du ministre de Mines. Le gouvernement de la RDC renonce à son projet de révision du code minier en vigueur. Le ministre des Mines, Martin Kabeloulou, a fait cette déclaration mercredi au forum Mining Indaba en Afrique du Sud. De la même manière que la décision de réviser ou non certaines clauses du code minier a divisé l'opinion, autant l'est la renonciation annoncée par le ministre des Mines. C'est ce que nous dit ici Iberi Franklin Luchaka.
Il convient de noter à ce jour qu'au regard du contexte général du secteur minier, le gouvernement a opté de maintenir l'application du code minier et de ses mesures d'application actuellement en vigueur pour régir le secteur minier de la RDC. Déclaration de Martin Kabeloulou à Indaba en Afrique du Sud, lui qui a encouragé les opérateurs miniers à maintenir leurs activités en dépit de la situation internationale relative à la baisse des cours des matières premières. Il les a aussi rassurés de l'accompagnement du gouvernement en cette épreuve et les a invités par ailleurs à ne pas exploiter cette situation pour verser dans le manque de transparence, de gouvernance et de civisme fiscal. Cette décision a réjoui la Chambre des Mines, qui estime que l'assurance donnée à Indaba par le ministre des Mines a apporté la clarté et la stabilité. Maintenant que le nuage de l'incertitude se dissipe, la RDC peut redevenir une destination compétitive pour les investissements miniers, le tout pour le profit aussi bien du gouvernement que du secteur, a dit Simon Tomawaku, président de la Chambre des Mines de la RDC. Il est bon de rappeler ici que le code minier de la RDC a été promulgué en 2002. En 2012, soit 10 ans après, le gouvernement a estimé que ce code n'était pas avantageux pour le trésor public et méritait de subir la révision de certaines clauses, la révision elle-même prévue par les dispositions du code en question. Depuis très longtemps, les avis sont partagés à ce sujet. Les opérateurs miniers n'en voulaient pas, tandis que certaines organisations de la société civile soutenaient le gouvernement à modifier ce code qui appauvrit le pays au profit des opérateurs miniers. Le gouvernement a renoncé à la révision, mais les ONG n'entendent pas la chose de cette oreille.
Et parmi les ONG qui n'entendent pas la chose de cette oreille, c'est le cas de la Commission épiscopale pour les ressources naturelles. Réagissant à ce revirement du gouvernement, le président de cette commission estime qu'il n'y a aucune raison qui justifie ce changement, quand bien même il aurait chute des prix des matières premières sur le marché international. Il pense que le gouvernement peut toujours revoir sa décision. On écoute un Mouya, il est le président de la Commission épiscopale des ressources naturelles, joint au téléphone par Nadine Folantimba.
Les raisons qui ont poussé le gouvernement à initier le processus de révision du code minier n'ont pas encore changé. Donc, à notre avis, ce ne serait pas le moment, parce que on se rappelle que le code minier de 2002 a été adopté dans un moment où le pays était en difficulté. On visait d'attirer les investisseurs. Et 10 ans après, on s'est rendu compte que les investisseurs ont gagné plus que le pays et qu'il était temps qu'on puisse réviser le code pour certaines dispositions. Quand bien même les gens disent que le code de 2002 n'était pas connu parce qu'il n'a pas été suffisamment vulgarisé et qu'il n'a pas été suffisamment appliqué, et c'est là qu'on soulève les questions de corruption et tout. Mais il y avait aussi des lacunes, notamment en ce qui concerne la nouvelle constitution qui a institué les ministres provinciaux des mines, n'existe pas. Il y a eu toutes les questions en rapport avec l'environnement, avec le développement local, en rapport avec la fiscalité, pour lesquelles on a eu des séances de travail tripartites, gouvernement, entreprises et sociétés civiles. Je ne sais pas si c'est simplement parce que le coût des métaux a baissé au niveau international qu'on devrait renoncer à ce plan.
C'est la raison avancée en fait.
Nous pensons que ce n'est pas suffisant parce que lorsque le gouvernement s'est réuni en conseil des ministres extraordinaire en janvier ici, ils ont entre autres pris comme mesure de se baser sur les minerais de l'Est. Or, dans le nouveau projet de loi, il est question, par exemple, des minerais de conflit. Il faudrait qu'on en parle parce qu'il y a l'éligibilité des personnes qui doivent accéder au site minier. Quelle est la valeur qu'on donne à ces minerais? Est-ce qu'ils sont considérés maintenant comme minerais stratégiques ou pas?
Et dans son rapport publié jeudi à Kinshasa, l'ONG International Global Witness estime que la RD Congo ne doit pas renoncer à l'amélioration de sa législation minière et à la lutte contre la pauvreté. Pour cette ONG, les 80 millions de Congolais vivent dans une pauvreté extrême en dépit des richesses minières du pays alors qu'ils souffrent d'une violence cyclique depuis 2 décennies qui est en partie alimentée par la concurrence autour de la richesse minérale. Nous allons rester dans les mines. Je vous ai annoncé une émission essentiellement minière pour évoquer les difficultés de fonctionnement que connaît actuellement la société minière de Kilomoto, la Sokimo. Pas d'usine de production d'or, des machines vétustes, 2 centrales d'électricité qui alimentaient les mines sont à l'arrêt et un personnel impayé depuis 42 mois. En tout cas, ce géant minier n'est plus que l'ombre de lui-même. Son nouveau directeur général, Jean-Baudouin Kodravélé, après sa visite sur les différents sites le week-end dernier, a fait le bilan de l'outil de production. Écoutez plutôt cette interview qu'il a accordée à José de Chartemenga.
L'état des lieux présente une coloration tout à fait noire. Nous avons été à Nizi, où vous avez observé que les infrastructures en fait étaient dans un état de vétusté assez prononcé, que ce soit dans les camps, les ateliers. Le seul point que nous avons vu, c'est l'usine que nous sommes en train de monter depuis quelques mois.
Qu'est-ce qui est en train d'être fait là-bas concrètement?
Pour le moment, nous sommes à l'étape préliminaire, c'est-à-dire les travaux préparatoires qui consistent au nivellement et à la fouille, en vue de préparer la fondation des différents annexes de l'usine.
Ça va être une usine de quoi?
L'usine donc a été conçue pour faire de la Sokimo un opérateur minier, un producteur d'or. En fait, c'est pour rejoindre son objet social qui, depuis plusieurs années, n'a pas été atteint. Le but, c'est de commencer à produire de l'or à partir des rejets miniers de notre ancienne usine.
Donc, mais pour cette usine qui va être construite au niveau des Nizi, par exemple, il n'y a rien pratiquement. On voit juste des caveaux, des trous creusés. Quand est-ce que cette usine va être opérationnelle?
Ça, c'est le regard que vous avez, mais avant d'en arriver là, il y a eu un travail géologique qui a été fait. Il y a eu un sondage et les résultats sont connus.
Vous avez dit il y a quelques jours à votre arrivée ici à Bounia que ça va être ça, l'espoir de la Sokimo. Apparemment, c'est un projet qui va aller sur 10 ans.
Pas sur 10 ans, en fait, nous sommes plutôt en retard dans l'exécution de ce projet, comme je vous l'ai dit.
Oui, même ce qu'on révèle ici, je vois par exemple les visites que nous avons effectuées au niveau des Nizi. J'ai remarqué par exemple que les matériels sont vétustes. Comment est-ce que vous entendez vous relever de toutes ces ruines?
C'est un des défis que nous sommes condamnés à relever, la vétusté des infrastructures. Mais les matériels qui arrivent, ce sont des matériels tout à fait neufs avec lesquels nous allons démarrer l'usine.
Mais il y a des politiques qui vous accusent, qui accusent vos entreprises à Sokimo d'émerger hébergé beaucoup de Chinois, mais qui ne sont pas répertoriés, même par votre entreprise. Qu'est-ce que vous en savez?
C'est ici que j'ai appris qu'il y a des Chinois qui sont éparpillés dans nos concessions. Il y a des histoires à voir claires. Non seulement les Chinois, mais aussi des Congolais sont en train d'espolier la plupart de nos concessions. Tous les Chinois ne sont pas mauvais.
Au sujet du paiement de vos travailleurs, qu'est-ce que vous entrevoyez?
C'est une situation qui dure déjà depuis plusieurs années. La situation s'empire davantage du fait que nos partenaires sont devenus de plus en plus réticents, de plus en plus dépourvus de moyens. Au départ, ils ont montré des signes de coopération assez significatifs, mais maintenant, très peu, en tout cas, nous accordent les rentes mensuelles qui sont contractuelles.
Monsieur le DG Kodravel, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier.
Et bouclons cette synthèse de la semaine essentiellement consacrée aux mines par l'entreprise minière Luna Mining du groupe Trafigura à Lubumbashi, qui a mis une cinquantaine de ses agents en congé technique et ces agents revendiquent à leur employeur leur décompte final. L'employeur a mis fin à leur contrat justifiant un cas de force majeure au cours du mois de novembre 2015 et dans un mémorandum adressé à la gérante de cette entreprise qui est parvenue lundi à Radio Okapi, ses ex-agents dénoncent ce qu'ils qualifient d'un acte de licenciement massif et abusif, signalant tout de même que cette entreprise exploitait du cuivre dans la carrière de Lupoto, un site de l'AGCAMINE. En réaction, la gérante de Luna Mining a demandé à ses ex-agents de rencontrer le chef de division provinciale de l'inspection provinciale du travail du Haut-Katanga au sujet de leurs préoccupations. Et au micro de Radio Okapi, l'inspecteur de travail contacté a affirmé avoir reçu le mémorandum de ses agents et a rassuré qu'il est sous examen.
Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30, heure de Kinshasa, Radio Capi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
En plus bref, quelques infos de la semaine. Province de la Tchopo, le trafic ferroviaire entre Kisangani et Ubundu, soit une distance de plus de 125 km interrompue depuis environ une année. Cette situation est consécutive notamment à la vétusté des locomotives ainsi que la dégradation de la voie ferrée. Selon la SNCC Ubundu, à ceci s'ajoutent des obstacles causés par de bambous et autres herbes qui ont envahi la voie et cette interruption de trafic entraîne d'énormes conséquences économiques dans la région. Le responsable du chemin de fer de la SNCC Ubundu, Beya Mwenge, a lancé un SOS aux autorités compétentes pour la réhabilitation de cette voie ferrée. Standard & Poor's maintient la note de l'économie de la RDC à B- à long terme et à la note B à court terme. Mais les perspectives passent du statut de stable à des perspectives négatives. L'agence justifie cette note par plusieurs faits parmi lesquels les réserves internationales qui ont sensiblement baissé. Elles sont passées de 1,695 milliards de dollars en 2013 à 1,2 milliards à fin 2015. Les incertitudes entourant les prochaines élections en République démocratique du Congo en constitue une autre raison. Et je vais vous annoncer un autre invité dans cette émission Panorama économique. Nous l'appelons de Londres et c'est Madame Félicité Lumingo. Elle est entrepreneuse et c'est avec elle nous allons prendre quelques minutes pour parler de l'activité qu'elle organise le 19 mars prochain à Londres. Il s'agit d'une conférence internationale qui va parler des investissements. Eh bien, les investissements, on en parle un peu beaucoup ces derniers temps. Le 24 et le 25 de ce mois, les Nations Unies vont organiser une conférence internationale sur les investissements du secteur privé dans la région des Grands Lacs. Madame Félicité Lumingo, bonjour si vous êtes avec nous.
Bonjour, M. Damien.
Vous organisez African Business and Investment Solutions. C'est l'événement que vous organisez le 19 novembre et vous le dites « Be your own boss and change your lifestyle ». Qu'est-ce que cela veut dire, l'événement que vous organisez?
Oui, justement, nous organisons une conférence ici à Londres. Je vais juste vous corriger, ce n'est pas en novembre, c'est au mois de mars.
Mars,
le 19 mars de cette année. Oui, ici à Londres. C'est une conférence de business. On est là, on veut travailler avec les gens qui ont des projets. On est là pour tendre nos mains et travailler ensemble en partenariat, en partenariat avec eux.
Vous demandez aux gens de devenir leur propre patron et changer leur style de vie. Comment cela se passerait? Je suis détenteur d'un projet, je cherche le financement. Le financement, j'espère que vous en avez.
Oui, on a le financement. Qu'est-ce qu'on fait? Tu as un projet, par exemple, et tu n'as pas d'argent pour commencer ton projet. Tu nous donnes ton projet, on l'étudie, et dès qu'on découvre que ton projet est rentable, on sera prêt de vous sponsoriser. Et si vous avez, par exemple, besoin des équipements, on va acheter les équipements. Et tu commences à travailler. Si tu veux travailler avec nous, d'accord. Si tu veux travailler seul, tu peux continuer à travailler seul, mais tu dois par après rembourser l'argent qu'on a utilisé pour acheter tes équipements.
Vous savez que le grand problème avec les petites et moyennes entreprises en République démocratique du Congo, c'est l'accès qui est difficile au financement, puisque le coût de ces financements sont très élevés. Vous faites la différence comment avec les financements que vous accordez? À quel taux d'intérêt, par exemple, celui qui obtient un financement de vous peut rembourser l'argent reçu?
Oui, normalement, la personne doit utiliser ses 25%, par exemple, et nous, on utilise les 75%. Et notre intérêt, c'est vraiment trop bas par rapport même à nos banques ici en Europe. Nos intérêts sont à 2% pour le remboursement.
Et vous organisez cet événement à Londres, et c'est un peu éloigné des Congolais, des Africains qui aimeraient bien bénéficier de ces financements que vous, originaires de l'Afrique, qui vivez en Europe, en Occident aujourd'hui, vous avez, mais quand même c'est un peu éloigné de bénéficiaires. Comment faire alors pour vous rejoindre, Madame Félicité?
Pour ceux qui sont en Afrique, par exemple, et voudraient venir ici à Londres, pour la conférence, ils peuvent demander un visa, on va envoyer les invitations et ils peuvent nous rejoindre. Et après, on a aussi d'autres projets, on veut vraiment aller sur place, travailler avec eux. On veut aussi organiser des conférences sur place, ça peut être au Congo, ça peut être partout, je ne sais pas, à Lyon, on verra là pour eux. Mais pour nous contacter, il y a mon numéro qui est le 0044-78-2856. 9517. Et on a aussi notre web site, c'est le www.africadiasporabiz.com. Donc, ils peuvent nous contacter, il y a mes numéros, je ne suis pas la seule, c'est tout un groupe. La personne peut nous contacter et on peut parler et organiser que cette personne soit vienne vers nous pour cette conférence business. Ou carrément, si la personne ne peut pas venir, vous pouvez nous envoyer son projet par email. On peut étudier le projet et on a toute une équipe à Kinshasa qui peut faire des suivis et par après la personne peut réaliser ses rêves.
Votre conférence, elle aura quelle différence avec beaucoup d'autres conférences qui ont précédé? On dit que souvent les gens organisent des conférences et puis après, il n'y a rien qui se passe. Quelle différence vous comptez faire après cette conférence que vous organisez?
Après la conférence, on va traiter les dossiers de tout ce monde-là et surtout répondre aux besoins. Parce que souvent, il y a des conférences, c'est plus théorique. Mais nous, on va être en action. On va répondre à ce qu'ils ont. Donc, c'est un peu, ils ont par exemple leur projet. Nous, on va acheter les équipements et après, on va les amener à Kinshasa, je ne sais pas si c'est en Abidjan ou partout en Afrique. On amène ça là-bas, on parle avec la personne, on travaille avec la personne. On aura même des images parce que, de toute façon, c'est bien d'avoir des théories. Mais pratiquer, c'est ça le problème. Mais nous, on est là pour pratiquer et être toujours dans l'action, c'est ça. Trouver la solution, échanger la vie de tout le monde. Si quelqu'un est pauvre, on est là pour aider.
Quelle assurance vous donnez à ces millions d'auditeurs de Radio Capi qui vous écoutent, madame Félicité Lumengo?
On leur donne nos paroles et on doit travailler en confiance et surtout dans l'humilité. Donc c'est juste qu'ils nous fassent confiance, on sera là pour répondre à leurs besoins.
Merci beaucoup, madame Félicité Lumengo, d'avoir répondu à nos questions. Rendez-vous alors le 19 mars pour cette grande conférence de business que vous organisez à Londres.
Ok, merci aussi à vous pour votre temps.
Merci, au revoir. Retour à Kinshasa et dans ce studio des panoramas économiques, je vous l'avais annoncé, nous recevons Trésor Mukambilwa. Avec lui, nous allons parler de la remise du prix, le grand prix de l'innovation du chef de l'État. La remise de ce prix a eu lieu hier à Kinshasa. Trésor, vous étiez dans le comité organisateur. Est-ce qu'on peut se faire une idée?
Bien dit, bonjour monsieur le journaliste et merci pour l'invitation, encore une fois, parce que c'est pas la première fois que nous passons sur les antennes des Radio Capi pour parler de ces grands prix de l'innovation industrielle du chef de l'État Joseph Kabila Kabange. En fait, effectivement, hier nous avons remis le prix, enfin, parce qu'il y a eu de report, et dans vos émissions nous avons eu le temps d'expliquer les pourquoi de ces reports, parce qu'il fallait d'abord permettre au jury de pouvoir étudier les dossiers, de pouvoir examiner. En fin de compte, hier vendredi, nous avons pu au moins proclamer les 20 lauréats qui sont sortis de ces lots de près de 500 dossiers.
500 dossiers reçus, traités, et finalement ces 20 qui ont été retenus. Parmi les 20, tous ont eu le même prix. En termes numéraires, c'est-à-dire le premier a eu 5 000 francs congolais et le dernier 5 000 francs congolais.
Pas du tout.
Ça dépendait de la qualité du projet présenté.
Effectivement, ça dépendait de la qualité du projet présenté, en fait de l'innovation présentée, parce qu'il ne fallait pas prendre de projet, il fallait d'abord avoir une innovation, une création physique qui peut être visible, et cette fois-là, la personne pouvait être primée. Mais ce qu'il faudrait vous dire aussi, c'est bon, en fait, il y a un classement quand on parle de 20 prix, donc il doit y avoir en premier jusqu'au 20e. Donc il y a une différence par rapport à cela. Ce qui avait déjà été annoncé, donc le 3 premier devrait recevoir effectivement une somme différente des 17 autres, et cette somme devrait leur permettre pour pouvoir commencer une industrie, commencer leur activité, mettre en place. Les autres devraient en fait recevoir un fonds de recherche, un fonds d'accompagnement, c'est-à-dire que ce sont des chercheurs, ce sont des universitaires, parce qu'il y a même des élèves. Il y a un garçon qui est élève, il y a une fille à peine qui venait d'avoir 19 ans, qui a aussi présenté son projet d'innovation qui a été retenu. Donc ce genre-là, parce comme c'est déjà acté hier dans le discours du ministre, il a dit, son excellence monsieur le ministre de l'Industrie, Jean-Marc Kaminga, il a dit, donc c'est acté chaque année. Donc la deuxième édition 2016, donc cette année, on aura une deuxième édition. Donc ce genre-là, s'ils perfectionnent leur projet, ils peuvent revenir, et s'ils ont la chance...
Alors si je vous ai bien compris, il y a eu les 3 premiers prix qui ont reçu de l'argent.
Oui.
Pour lancer leurs industries.
Tous ont reçu de l'argent.
Les autres, c'est pour...
À la seule différence des autres.
Les autres, c'est pour lancer leurs activités, leurs petites industries, et les autres pour continuer les recherches scientifiques.
Effectivement.
Développer leurs initiatives. Alors, comme c'était publié hier, ce n'est pas un secret, les 3 premiers prix, l'enveloppe, c'était combien? Puisque nous sommes dans une émission économique, les chiffres sont importants.
Les chiffres sont importants. Le premier a reçu une enveloppe de 25 000 dollars. Et le deuxième, une enveloppe de 20 000 dollars. Et l'autre, une enveloppe de 10 000 dollars. Alors, de ces faits, il a été dit hier par son excellence que cela devrait aussi avoir des unités industrielles. Bon, je n'ai pas une idée exacte ici pour dévoiler à combien cela coûtait, mais néanmoins, ils ont une unité industrielle qui peut leur permettre, ou qui peuvent leur permettre...
En dehors de l'argent qu'on l'a remis, oui. Il y a une unité industrielle selon le projet, selon l'innovation présentée.
Selon l'innovation présentée. Donc, c'est-à-dire c'est une entreprise déjà qui est là. En fait, comme vous le savez, l'objectif primordial ici était d'encourager l'entrepreneuriat des jeunes. Bon, quelqu'un qui est déjà entrepreneur, avec le peu qu'il a, vous lui donnez cet argent et cette unité industrielle qui ne s'évalue pas à 25 000 dollars. Ça, il faudrait le souligner. Et ça, c'est un fonds qui doit lui permettre de pouvoir mettre tout en place et puis démarrer avec son activité.
Bon, le Grand Prix de l'innovation industrielle était lancé pour toutes les provinces de la RDC. La sélection a eu lieu et finalement on est passé de 500 à 20. Mais sur l'échantillon de 20 innovations qui sont retenues, la répartition, selon nous avons 26 provinces actuellement. Mm-hmm. Et même, je ne sais pas, c'est même par rapport à l'ancienne configuration, quelle est la répartition des provinces par rapport à ces 20 projets qui sont retenus?
Bon, ce que j'aimerais d'abord souligner ici...
On n'a pas tenu compte de la répartition géographique. Il était question de tenir seulement compte de l'innovation.
En fait, tenir compte au départ de la répartition géographique, ou soit la situation géographique de notre pays, au départ, ça allait être un peu biaisé, les concours même. Le plus important ici, c'était d'abord de passer l'information sur toute l'étendue de la République. Ça, nous nous sommes assurés. Et ça, il faudra aussi s'assurer que Radio Okapi est capté partout en République démocratique du Congo. Et voire même sur le site internet de Radio Okapi, nous sommes passés pour passer l'information. Permettez-moi cette tautologie. Alors, cela a permis que toute la République soit informée. Pas seulement Radio Okapi, on a utilisé aussi d'autres médias. Le FPI qui est représenté presque dans suivant l'ancienne configuration de 11 provinces qu'on avait, le FPI est représenté partout et le FPI nous a permis à relayer le message, que ce soit par des affiches ou soit par des médias locaux. Le FPI l'a fait et ce qui a fait que nous avons reçu le dossier de presque partout. Je ne peux pas dire ici parce que Kinshasa est presque représenté largement représenté parmi les lauréats. Il y a aussi, nous avons une partie de nos compatriotes évoluant à l'extérieur, parce que vous savez, comme Radio Okapi nous avait permis de publier sur le site internet, ils sont tout le temps sur Radio Okapi.
J'avais suivi la retransmission de cet événement. Il y a un prix qui était décerné à un Congolais qui vivait à Toronto, au Canada.
Effectivement, c'est un monsieur, lui qui vivait au Canada. Il a pu déposer son dossier, mais c'est Serge Moussala. Il a déposé son dossier, c'était sur Internet, d'après ses explications. Parce que comme je suis dans le comité organisateur, j'ai eu le temps d'échanger avec lui et poser des questions. D'après ses explications, c'était sur Radio Okapi.
Qu'il a appris l'information.
Qu'il a appris l'information et ça coïncidait avec son retour au pays. Quand il a appris l'information, il a téléchargé les formulaires et arrivé ici au pays, il a postulé. Bon, ne sachant pas qu'il allait se retrouver parmi les gagnants. Comme il y tenait, il est resté. Il attendait effectivement à ce qu'il aille, et c'est là. Et pendant que nous sommes en train de parler, il avait déjà commencé ses affaires ici au pays. Il a déjà commencé à investir. Je ne suis pas là pour faire sa publicité, mais néanmoins, d'après ses explications, il a déjà commencé une affaire, et avec ses prix...
Il est le seul Congolais vivant à l'étranger reçu ses prix.
Non, il y a aussi quelqu'un, il y a une personne, Monsieur Dadi Bokana, lui il est de Bruxelles. Et nous avons Monsieur Christian Boukabou, lui il est de Luxembourg.
D'aucuns diraient que c'est des amis au ministre de l'Industrie.
Je ne pense pas. Parce que vous savez, si vous allez, par exemple, le cas de. Je vais prendre le cas de Monsieur Serge. Monsieur Serge Moussala. De Toronto. Il a eu l'information. Vous pouvez contre-vérifier cette information avec lui pendant qu'il est en train de venir avec son visa. C'est permis. Les journalistes peuvent le faire. Et c'est permis. Ils sont là, les candidats. Nous avons leur nom, leur numéro. Très facilement, s'il faudrait mener des enquêtes, vous pouvez y aller. Vous verrez. Ça coïncide avec son retour au pays. Et il est arrivé. Il a postulé. Et il est passé aux interviews comme tous les autres candidats.
Donc, l'édition 2015 appartient désormais au passé. Cap aujourd'hui sur la deuxième édition 2016. C'est ce que vous avez dit. Il va y avoir une deuxième édition pour l'année 2016.
Bon, je voudrais dire ici, il ne faudrait pas directement mettre ça au passé parce qu'il faudrait faire perpétuer les œuvres
de cette première édition.
Il voilà. Faudrait encore en parler. Il faudrait aussi
suivre sur le terrain.
Comment est-ce que cela
se matérialise.
Et
ouais.
Comprenez déjà votre question tout à l'heure d'aucun aurait dire que ce sont des amis des ministres. Ok, cette question-là, c'est une question que vous posez, mais peut-être quelqu'un peut se dire. Mais aussi, de notre part, nous avons fait ce qu'il fallait. Au niveau du ministère, au niveau du gouvernement, les gouvernements ont fait ce qu'il fallait. Mais néanmoins, s'il faudrait accompagner ce genre, vous savez, l'esprit managérial, cela n'est pas donné à tout le monde. Ceux qui ont
hésité.
Bon, je mérite d'abord dire ici, il y a ceux-là qui peuvent recevoir l'argent et puis ça donne autre chose. Mais plutôt, il y a un accompagnement positif que par exemple le média peut faire. Par exemple la Radio Capi, vous ne savez pas quelle ascendance psychologique que vous avez sur les candidats. Il y a déjà plusieurs qui demandaient que s'il y a moyen que je puisse parler de mon produit sur Radio Capi et ainsi de suite.
Justement.
Mais si vous vous approchez ces candidats, je pense que ça serait une manière de le vendre et contribuer à
cette aide. Peut-être que nous ne manquerons pas de le faire, mais que dites-vous à ceux qui avaient hésité justement quand cet appel était lancé? Qu'est-ce que vous leur dites?
Moi, je peux leur dire que bon, d'abord, désolé, parce qu'ils ont hésité. Il fallait tenter la chance.
Mais ce n'est pas tard.
Ce n'est pas tard parce qu'il y a
des éditions qui vont suivre.
Il y a des éditions qui vont suivre et je veux leur demander à l'instant d'abord de télécharger le formulaire qui est disponible sur Radio Capi. Parce que je ne pense pas, s'il y a des améliorations, on verra, parce que c'est dans chaque édition, il y a peut-être des ratés, des choses qui n'ont pas pu marcher, on va voir comment maintenant réajuster certains éléments. Même si on ajoutait lors de la prochaine édition, je ne pense pas qu'on va tout modifier par rapport aux critères d'éligibilité. Ce que je vais leur demander, c'est simplement qu'ils téléchargent le formulaire pour l'édition 2016 et les rassurer que l'édition 2016, ils peuvent tenter l'expérience et je pense qu'ils peuvent aussi se retrouver parmi les lauréats qui ont postulé.
Trésor Mukambilwa, merci d'avoir répondu à nos questions et merci surtout d'avoir accepté d'échanger avec nous au sujet de la remise du Grand Prix de l'Innovation 2016, prix du chef de l'État. Merci beaucoup d'être venu dans nos studios.
Merci beaucoup. J'aimerais dédier aussi cette édition 2015 à M. Tiandamachi parce que lui, il est décédé bien avant de connaître qu'il était parmi les lauréats. C'est qu'il lui-même nous avait dit dans nos bureaux que il avait eu l'information par Radio Capi. S'il était vivant, on aurait à avoir un bon témoin pour cette édition. Je vous dis merci.
Paix à son âme.
Paix à son âme.
Et à vous tous, chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Retrouvez Panorama économique toute la semaine sur www.radioocapi.net. À la semaine prochaine.